magazine des Nations Unies.
Bienvenue au magazine des Nations Unies. Au titre, la MONUSCO a désormais ses drones. Le vol inaugural de ses engins de surveillance sans pilote a eu lieu mardi dernier à Goma. Quel élément supplémentaire apportent ces engins à l'action de la force de la MONUSCO sur terrain, des opérations dans l'est du pays? Réponse dans cette édition avec le secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix. Dans ce magazine aussi, la réaction du secrétaire général des Nations Unies sur la disparition de Nelson Mandela, qui s'est éteint jeudi dernier. Ban Ki-moon évoque le prix Nobel de la paix comme une source d'inspiration pour le monde. Les volontaires des Nations Unies, le concept n'est pas nouveau. Il renvoie au travail des milliers de jeunes volontaires dans le monde. Le système des Nations Unies leur rend hommage le 5 décembre de chaque année. Mais qu'est-ce qu'est être volontaire des Nations Unies et comment le devenir? Le chargé des programmes UNV au sein de la MONUSCO en parlera dans notre rubrique décryptage. Enfin, le FNUAP ferme ses portes en Ituri, district de la province orientale. Coup de projecteur sur le bilan de cette agence onusienne ainsi que sur les réactions qu'a suscité ce départ. Ce sera dans la rubrique Nouvelle en province.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous. Nous commençons par cette nouvelle triste qui a bougé le monde entier. Nelson Mandela est mort jeudi 5 décembre à 95 ans. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué en Nelson Mandela une source d'inspiration pour le monde. Nous devons nous inspirer de sa sagesse, de sa détermination et de son engagement pour nous efforcer de rendre le monde meilleur, a-t-il déclaré à la presse au siège de l'ONU. L'homme d'État sud-africain a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique d'apartheid. Après 27 ans de prison, il deviendra finalement le président de la République sud-africaine de 1994 à 1999. L'icône mondiale du monde contre le racisme reçoit le prix Nobel de la paix en 1993. Les membres du Conseil de sécurité ont salué à ce sujet l'adoption en 2009 de la journée internationale Nelson Mandela, la première journée internationale à être dédiée à une personne. Ils estiment que cette mesure est à la hauteur de la contribution majeure que Nelson Mandela a apporté à la liberté et à la justice. Revenons en RDC pour parler du lancement officiel mardi dernier du premier drone, un avion sans pilote et non armé, jamais utilisé par la MONUSCO. L'événement s'est déroulé à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. L'opérationnalisation de ces appareils volants vise à renforcer les capacités d'accès à l'information de la force de la MONUSCO sur la sécurité dans la région. Jean-Pierre Lali Coco pour les détails.
L'appareil de fabrication italienne a décollé dans un grand vrombissement en devant la presse et en présence du chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Lapsou, et de plusieurs diplomates. Le M23, le principal mouvement rebelle, étant vaincu militairement, quelle sera alors la mission de ces engins de surveillance sans pilote et non armés? Écoutez la réponse de Hervé Lapsou lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies, organisée conjointement à Goma et à Kinshasa, c'était mercredi dernier.
Quand on était en opposition avec le M23, c'était des unités extrêmement nombreuses, avec du matériel lourd, donc des choses qu'on pouvait voir hein, avec les hélicoptères, avec les moyens classiques, avec des groupes qui sont beaucoup plus diffus, qu'il s'agisse des FDLR, qu'il s'agisse des ADL, ADF Nalu ou d'autres, ce sont des groupes beaucoup plus petits. Là, on va pouvoir vraiment focaliser sur chacun de ces groupes, même très petits. Deuxièmement, c'est vrai que ces drones vont opérer à l'intérieur du territoire congolais, mais qu'ils auront une vocation évidente à suivre ce qui se passe en direction d'eux et en provenance de la frontière. C'est un élément tout à fait important de l'analyse de situation.
La MONUSCO dispose pour l'heure de deux avions sans pilote de ce type. À terme, la mission onusienne doit se doter de 5 drones fabriqués par Selex S, filiale du groupe italien d'aéronautique et de défense. Elle compte être en mesure d'assurer, à partir du mois de mars 2014, une surveillance aérienne 24 heures sur 24.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
contribution des volontaires aux efforts de la paix et de développement. C'est le thème retenu le 5 décembre de cette année à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des volontaires à travers le monde. Le système des Nations Unies apprécie la contribution que de millions de jeunes qui se portent volontaires partout dans le monde apportent à la paix et au développement. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'a souligné en cette journée. Plusieurs activités ont été organisées en RDC par le Bureau des volontaires des Nations Unies de la MONUSCO en collaboration avec d'autres partenaires, dont une course dite de paix. Mais qu'est-ce que cela représente exactement d'être volontaire des Nations Unies et comment faire pour être éligible? Mark Sperling, chargé des programmes UNVIE au sein de la MONUSCO, s'entretient à ce sujet avec Nicole Ngaka.
Bonjour Monsieur Mark Sperling.
Bonjour.
Vous êtes chargé des programmes au bureau des volontaires ici à la MONUSCO. Nous savons que le monde célèbre ce samedi, donc aujourd'hui, la Journée internationale des volontaires des Nations Unies dont le thème cette année est « Contribution des volontaires aux efforts de la paix et du développement ». Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ?
Pour le programme des volontaires des Nations Unies au sein de la MONUSCO, ça représente un effectif qui est au-delà de 560 individus. Qui chacun dans leur domaine amène leur pierre et contribue vers la paix, le développement dans ce pays. C'est des hommes et des femmes de tout horizon. Ils sont de 89 pays et qui amènent leurs connaissances, que ce soit dans les droits de l'homme, dans la protection des enfants, dans le désarmement ou dans les domaines techniques. Des juristes, des techniciens en informatique, des mécaniciens, des ingénieurs. Tout le monde est là.
Tout le monde est là, mais nous savons que ce n'est pas la première fois qu'on célèbre cette journée. Chaque année, elle est célébrée. Et pourquoi le choix de ce thème cette année?
Le programme des volontaires a une thématique qui est partagée à partir du siège tous les ans. Et cette année-ci, nous sommes dans la thématique de la paix et du développement et de la jeunesse.
Alors, comment devient-on volontaire des Nations Unies? Parce qu'il y a pas mal de gens qui entendent parler des volontaires des Nations Unies. Qu'est-ce qu'un volontaire des Nations Unies et comment le devient-on concrètement?
C'est beaucoup de chance qui joue là-dedans. Nous avons un site internet où les gens peuvent postuler et mettre leur candidature de l'avant. Nous avons plus de 400 000 personnes qui postulent tous les ans. Après ça, c'est quels sont les besoins de nos partenaires. Nous travaillons en partenariat avec effectivement les missions de maintien de la paix, mais nous travaillons aussi avec le PNUD, avec le HCR, avec l'UNICEF, toutes les agences du système onusien, où ces agences ont des opérations. Ils ont besoin d'autres personnes pour contribuer. Et nous sommes un appoint. Le programme des volontaires est un appoint aux besoins de nos partenaires.
Et tout le monde est éligible?
Oui, on ne refuse personne, mais typiquement, il y a un âge minimum requis, c'est 25 ans, et normalement 3 ans d'expérience dans un domaine, au minima. Après ça, ça va crescendo, et on a des volontaires de tout horizon. Certains qui sont les doyens du programme. J'en ai un aujourd'hui qui est un spécialiste de la gestion aéroportuaire à NTB, qui fait partie de la mission. Il a 70 ans.
Waouh. Alors, juste un petit rappel par rapport au site, parce qu'il y a peut-être des gens qui vous suivent et qui aimeraient, pourquoi pas, postuler.
Bien sûr. C'est www.unvolunteers.org.
Nous savons qu'ici en RDC il y a également des volontaires
nationaux.
Des Nations Unies, nationaux.
Bien sûr.
Alors est-ce que on peut savoir exactement au nombre de combien ils sont ici au Congo?
Oui. Pour le moment c'est un volet du programme des volontaires assez modeste. Il y a une vingtaine qui sont recrutés à travers les bons offices du PNUD et puis incorporés, affectés à la MONUSCO. Surtout dans les affaires civiles.
Mais nous savons qu'il y a d'autres volontaires aussi internationaux qui évoluent également ici au Congo. Ils sont au nombre de combien?
Au total?
Oui.
Au-delà des volontaires internationaux de la MONUSCO, il y a encore une centaine au sein des agences PNUD, HCR, PAM, etc.
C'est pas facile, hein, d'être volontaire des Nations Unies.
Non, c'est un engagement civique. Chacun a ses raisons personnelles pour le faire. Il y en a qui cherchent de l'expérience, d'autres qui cherchent une aventure, d'autres qui cherchent un hiatus entre deux jobs à la maison. D'autres qui ont des aspirations de carrière et qui voient ça comme une porte d'entrée. Il y a de tout. Comme je dis souvent, il y a autant de raisons d'être volontaire qu'il y a de volontaires eux-mêmes.
Marc Sperling, nous savons que la journée est célébrée le 5 décembre. Alors, quelles sont les activités organisées dans le cadre de cette journée en RDC?
En RDC, nous avons eu des activités diverses et variées à travers tout le pays. Bien avant le 5 décembre et qui continueront après le 5 décembre, dont une course de solidarité qui aura lieu le 7.
C'est pourquoi j'ai dit le 7.
Exactement. Nous avons eu des ateliers de formation, nous avons eu des concerts à Goma. L'idée dans tout ça, c'est de faire un plaidoyer pour le volontariat en tant que tel, de demander aux uns et aux autres, la jeunesse en particulier, de s'impliquer dans le développement de leur pays.
Et cette année, c'est comme s'il y a un accent qui est beaucoup mis par rapport à la paix.
Absolument.
En RDC notamment.
Ouais, le pays en a besoin. Et de se focaliser là-dessus et de demander aux uns et aux autres de voir une autre façon de vivre, nous trouvons ça une bonne utilisation de notre temps.
Mais si on doit être un peu plus précis, l'apport des volontaires des Nations Unies aux efforts de la paix en RDC, notamment en ce qui concerne la mission des Nations Unies.
L'apport, comme j'ai dit, c'est dans des domaines comme les affaires civiles, les affaires politiques, le désarmement, nous avons les droits de l'homme, la protection des enfants. Il y a des volontaires qui œuvrent dans tous ces domaines et qui apportent leurs connaissances, leurs contributions à la mission. Et pour les soutenir, beaucoup de volontaires dans les domaines techniques, parce que on a besoin de volontaires dans les droits de l'homme, on a besoin d'efforts dans le désarmement, mais si les véhicules ne marchent pas ou si l'informatique ne suit pas, les gens ne peuvent pas faire leur travail.
Mais pourquoi les appelle-t-on volontaires? Parce qu'en fait, c'est un travail comme tout autre. Pourquoi ce concept volontaire?
Ouais, le programme volontaire a été créé en 72 par un arrêté de l'Assemblée Générale, par une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a créé ce programme avec l'optique de permettre à tout citoyen du monde de venir contribuer aux efforts des Nations Unies sans nécessairement en faire partie d'un plan carrière. Et donc la durée d'affectation d'un volontaire en moyenne est en dessous de 3 ans. Et souvent avec 2 affectations dans leur vie. Et après ça, les gens retournent à vaquer à leurs occupations normales. Donc ce n'est pas un job rémunéré, payé. Les volontaires reçoivent un pécule pour subvenir à leurs besoins dans leur lieu d'affectation. Et c'est tout. C'est beaucoup d'engagement perso, civique. Une optique de comment on voit le monde.
Nous savons qu'ils évoluent dans la mission des Nations Unies en RDC. Il y a aussi des volontaires dans les agences qui font aussi un travail de qualité.
Bien sûr.
Marc Sperling, vous êtes chargé des programmes au niveau du Bureau des volontaires des Nations Unies à la MONUSCO. Merci d'avoir été notre invité et à la prochaine.
C'était mon plaisir. Merci à vous.
Nos brefs. partiront de la province de l'Équateur où la MONUSCO finance la construction de deux puits d'eau à Bongondé-Djolé, une localité située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Mbandaka, dans le cadre d'un projet à impact rapide, KIP. La mission y investit un montant total de 23 533 $ américains. Les travaux ont été réalisés par le collectif des femmes de l'Équateur à travers l'ONG Forum d'Action Intégrale pour le Développement Durable. Le programme alimentaire mondial PAM aura à réduire, à suspendre certaines de ses activités en RDC à partir de ce mois de décembre. Dans un communiqué publié mardi, l'agence s'est dite confrontée à de sérieuses contraintes financières. Pour assurer la continuité de ses opérations dans les 6 prochains mois, le PAM, qui est entièrement financé par les contributions volontaires, a un besoin urgent de 75 millions de dollars américains d'ici à mai 2014. Le PAM, qui a déjà réduit de moitié les rations fournies aux déplacés internes dans la province du Nord Kivu, comme le rapporte le communiqué. Enfin, en novembre 2013, 110 volontaires locaux ont participé à l'atelier de renforcement des capacités pour la promotion du volontariat qui s'est tenu à Kinshasa du 4 au 5 novembre et à Goma le 29 novembre. Cet atelier avait pour objectif d'entamer une réflexion sur le rôle de leadership et l'impact des associations de volontaires dans le développement local et le relèvement communautaire dans le pays. Il a été organisé par le Secrétariat national du volontariat en partenariat avec le programme des volontaires des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Après sa mission de 3 jours en République démocratique du Congo, le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Hervé Latsou, parle de l'avenir des groupes armés qui sévissent dans l'est du pays. Hervé Latsou est notre invité. Il répond aux questions de Sifa Maguru.
Hervé Latsou, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous venez de conclure votre séjour en RDC. Quelle est la lecture que faites-vous de la situation dans ce pays ?
Je crois qu'on en est à un stade décisif. Après plusieurs décennies de troubles, de souffrances, tout ce qu'on sait, des millions de morts, des millions de réfugiés, de déplacés, des centaines de milliers de femmes violées, des enfants recrutés dans les groupes armés par dizaines de milliers. Tout ça, je crois que le paysage est en train de changer. Après la phase décisive sur le plan militaire, qui a été marquée par la victoire de l'armée congolaise, secondée par la MONUSCO sur le M23. Je crois que la perspective est ouverte maintenant d'un règlement beaucoup plus vaste du problème. Mmh. Il nous reste évidemment à régler le sort des trop nombreux groupes armés qui continuent à sévir. Il nous reste à remplir le vide en travaillant, et c'est d'abord le travail du gouvernement congolais, mais toujours avec notre appui, à rétablir l'autorité de l'État dans toutes ces régions où il n'y en a pas eu pendant si longtemps. Et puis il faut régler le problème des anciens, des ex-combattants. Enfin, il y a toute une série d'aspects sur lesquels j'ai beaucoup insisté dans tous mes entretiens avec les autorités du gouvernement congolais. Et je crois qu'ils ont tous été très réceptif à ces messages.
Et comme vous parlez des ex-combattants, à propos du processus DDR3, les combattants des groupes armés locaux sont en train de se rendre. On a enregistré des centaines de rendus qui sont regroupés à Bouremana, mais jusque-là, leur prise en charge pose problème et le travail en soi des démobilisations n'a pas encore commencé. Le ministre de la Défense a récemment évoqué des difficultés logistiques et de moyens. Alors, à quand l'appui de la communauté internationale au gouvernement congolais pour faciliter ce travail?
Je crois que la première chose, c'est évidemment que le gouvernement congolais arrête définitivement ses choix sur ce programme. Et je l'ai expliqué à tous mes interlocuteurs. Plus vite ces choix seront faits, plus vite la politique du gouvernement congolais vis-à-vis du DDR sera fixée, plus vite nous pourrons l'aider. Toutes nos équipes sont mobilisées. Et je voulais saluer le travail remarquable qu'elles ont fait dans cette perspective. Mais c'est vrai qu'il faut avancer le plus vite possible.
Parlons à présent des drones. Parmi ces aspects civils, qu'est-ce que les populations du Nord Kivu peuvent attendre de ces drones?
D'abord, beaucoup plus d'efficacité encore dans l'action de la MONUSCO contre les groupes armés. Ces engins de surveillance, et je préfère utiliser ce mot plutôt que celui de drone, parce que ça évoque drone des engins armés. Les nôtres ne sont pas armés, ils sont simplement destinés à la surveillance, mais précisément, à nous donner une information complète et en temps réel sur ce qui se passe sur le terrain. Donc le bénéfice sera d'abord sur ce plan-là, et c'est au bénéfice des populations. Réduire les groupes armés, c'est améliorer la sécurité des populations. Deuxièmement, en cas de menace spécifique de tel ou tel groupe sur une communauté, un village, une région, ça nous permettra aussi de savoir en temps réel s'il y a des mouvements de population qui se dessinent, des gens qui veulent se déplacer, quitter des zones de combat. Vous voyez, je pense que tout le monde y gagnera.
Alors, par rapport à sa capacité de collecte d'infos, est-ce que les populations peuvent espérer de plus amples informations sur, par exemple, que contient le sol et le sous-sol? Par exemple, le parc des Virunga, combien d'animaux il y a? Ils sont regroupés où? Les sites miniers, qui contrôle où? Donc, est-ce que la population peut espérer toutes ces informations à partir des drones?
Je crois que ces engins sont d'abord configurés dans une logique de surveillance des groupes, des groupes et des individus. Maintenant, il n'y a pas de détecteur de métaux dedans. Hein, il n'y a pas d'équipement spécialisé, par exemple, vous évoquez les problèmes miniers, non. Mais il est possible qu'au cours des opérations de survol, nous soyons amenés à repérer certains sites. Et à ce moment-là, il faudra prendre une décision qui s'impose.
Et qui sont sur ce site? Si c'est des groupes armés ou
mais
comment?
Précisément, quand on repère un site, la première question qu'on se demande, c'est est-ce que c'est un site légitime ou est-ce que c'est un site illégal? À partir de là, on peut en tirer les conséquences avec les autorités congolaises.
Est-ce que les drones ont la capacité de détecter des caches d'armes enfouies dans le sol ou dans des maisons? Parce que ça, c'est une préoccupation de la population des Rutshuru qui redoute l'existence des caches d'armes dans cette région depuis la succession des guerres dans ce milieu.
Je ne suis pas un technicien, mais je vous répondrai non. Nos drones ne sont pas équipés pour, avec par exemple des radars de pénétration souterrain, pour repérer des caches d'armes, ça non. Mais en revanche, repérer des groupes qui seraient en train de déterrer des armes et de s'équiper, ça c'est de l'ordre du possible.
Avez-vous un mot à ajouter pour terminer cet entretien?
J'en aurais deux ou trois peut-être. Le premier d'abord c'est pour saluer le travail remarquable qui est fait par la MONUSCO hein, au service de ce pays. Et saluer d'ailleurs aussi Radio Okapi, qui est vraiment une institution formidable. Et puis surtout, exprimer un message d'espoir. Je crois que jamais dans la période récente, nous n'avons eu autant de cartes en main pour faire avancer le processus de sortie de crise de la République démocratique du Congo. Des cartes diplomatiques, des cartes politiques, des cartes militaires. Je crois que tout ça compte pour beaucoup. Et avec de la constance dans l'effort, avec de la volonté politique, et j'ai senti que cette volonté politique existait bien du côté du gouvernement congolais, je pense qu'ainsi nous pouvons espérer un avenir qui s'améliore sensiblement pour les populations de ces régions.
Monsieur Latsous, merci de répondre aux questions des Radio Okapi.
Je vous en prie, merci.
Notre nouvelle en province de cette semaine, c'est la fermeture officielle en Ituri des bureaux du Fonds des Nations Unies pour les activités de la population, FNUAP. Selon la responsable du FNUAP pour la région Est du Congo, le projet qui était exécuté grâce notamment au financement du gouvernement finlandais est arrivé à son terme. Le suivi de certains projets se fera désormais à partir de Goma dans le Nord Kivu. Pendant près de 3 ans, cette agence des Nations Unies a appuyé beaucoup de structures sanitaires de cette partie de la province orientale, notamment dans le cadre de son programme de santé de reproduction. Jean-Claude Lux.
Avant de fermer ses portes, le bureau de FNUAP a procédé à la remise des matériels de bureau ainsi que de l'engin roulant à certains services étatiques. Parmi ces derniers, le bureau Genre, Famille et Enfants du district de l'Ituri ainsi que le district sanitaire de Bounia à travers le programme national de la santé de la reproduction. Dans ce lot, il y avait une Jeep 4x4, des chaises, des armoires, des imprimates ainsi que des fournitures de bureau. Pendant plus de 2 ans, plusieurs projets ont été exécutés par FNUAP avec le concours d'autres partenaires, bien que le suivi de certaines activités se fera désormais en distance. Miranda Tabifort est chef du bureau du FNUAP pour la région Est, estime que le bilan est positif au regard des réalisations sur terrain. Et les gens nous téléphonent à partir de Goma.
Si je prends par exemple le cas du projet finlandais, améliorer l'accès et les services de qualité en matière de planification familiale, ça améliore aussi l'accès dans les questions de questions humanitaires, ça améliore l'accès aux individus pour accéder les services sur le terrain, dans le cadre de violences sexuelles basées sur le genre, nous avons appuyé les différentes structures sur place pour avoir la base de données. Si vous voyez très bien, je pense que les partenaires qui ont reçu les matériels, c'est par exemple la division genre du site sanitaire de Bounia. Donc tous ces partenaires ont donné des témoignages de notre appui par rapport à notre mandat d'intégration familiale, les questions sur les violences basées sur le genre. Et je pense que si on doit faire le bilan, c'est un bilan positif. Donc nous allons continuer l'appui dans le cadre de ce programme.
Cette décision a surpris certains responsables des formations médicales qui bénéficiaient de l'appui de cette agence de l'ONU. Le médecin directeur de l'hôpital de Rwampara salue à passant la réputation de la maternité de Rwampara ainsi que l'équipement du bloc opératoire de cette formation médicale. Docteur Capitaine Ipanza cite ici quelques retombées de cette assistance.
Nous avons eu des équipements vraiment modernes qui nous aident parce qu'actuellement, on ne peut pas manquer des paquets stériles. Nous en avons assez depuis que l'UNFPA nous a appuyé. La population et surtout les femmes enceintes, les parturientes, n'ont pas de difficultés à l'époque. Pour un cas ou deux cas, on était obligé de transférer par manque de matériel de traitement pour la césarienne, par exemple. Et à part ça, nous avons des appareils échographes pour détecter les risques des nouveau-nés avant l'état et prendre des précautions avant l'état à travers le CPN et d'autres activités.
Au centre hospitalier de Rouen-Colessi à Bounia, le FNUAP, ou si vous voulez, l'UNFPA, a appuyé la prise en charge médicale de près de 500 femmes souffrant de fistules vestico-vaginales. Le médecin directeur de cet hôpital réitère son vœu de voir cette agence continuer à les soutenir, même à distance, Dr Claude Idringi.
C'est mon grand regret, cette fermeture, parce que ça fait un manque à gagner par rapport au travail que nous faisons, parce qu'ils nous ont fortement appuyé pendant tout ce temps. Leur départ, en tout cas, ça crée un peu un vide par rapport à l'appui qu'ils nous ont apporté. Ils nous ont appuyé par rapport au travail de réparation des fissures que nous faisons, de temps en temps à l'hôpital, et parfois aux soins que nous donnons à la maternité, aux soins chez les mamans à la maternité. Si nous ne trouvons pas un autre partenaire qui pourra relayer, je pense que c'est un vide parce que nous n'aurons pas les intrats qu'ils donnaient, c'est un vide.
Les responsables plutôt des FNUAP rassurent que tous les programmes qui étaient pilotés par cette agence en Ituri continueront à bénéficier du même soutien comme par le passé. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je réponds au nom de Michel Kimpoene Misha. Je suis célibataire, pas encore d'enfant, et plusieurs fois tante, ça au moins je peux le dire. J'ai fait mes études universitaires à l'Université catholique du Congo, où j'ai décroché un diplôme de licence en communication sociale et en option éducommunication. Ce que je fais au PNUD, je suis associée à la communication pour le pilier CIDD, croissance inclusive et développement durable du PNUD RDC. Je suis au PNUD depuis août 2012, disons un an et trois mois déjà. De manière générale, j'appuie les différentes composantes en ce qui concerne la visibilité de leurs actions, de leurs activités, ainsi que dans la planification de ces dites activités. Alors, juste après mes études universitaires, j'ai travaillé pendant trois mois dans une entreprise privée qui œuvre dans la sécurité électronique des entreprises et de certains organismes. Et après cela, j'ai postulé et j'ai été recrutée comme volontaire des Nations Unies travaillant pour le compte du PNUD. Mon temps libre. Bon, le plus souvent, je réponds à mes engagements en paroisse parce que je suis chrétienne catholique. Nous organisons pas mal d'activités des jeunes le week-end en paroisse. Aussi, les promenades. Oui, c'est toujours génial, j'aime bien les promenades. Voilà en gros un peu ce que j'aime, ce que je fais à mon temps libre. En musique, je crois que je ne suis pas très sélective. Tout sonne agréable à mon oreille et associé à cela un beau texte. ça me fait du bien, ça me plaît. Que ça soit du jazz, du rap, du reggae, du R&B, de la rumba, ça me fait bouger, ça me fait danser, même si je ne sais pas danser. On se moque souvent de moi quand je danse. Quant au sport, ouf, j'ai été une très mauvaise élève en éducation physique. Alors je crois que je dois m'y mettre. Je crois vraiment que je dois m'y mettre, mais je suis passionnée à voir les gens jouer au tennis. Et je crois que jusque-là, c'est le tennis qui commence vraiment à m'intéresser et je vais m'y mettre. Quant au mets, ben, Michel est une bouffe-tout. Hein. Elle est une bouffe-tout, mais je crois qu'elle ne résisterait pas devant une assiette de poisson frais et des bananes frites ou faites à la vapeur. À ça, elle ne résisterait pas. Projet d'avenir. Michel se voit à la tête d'une agence conseil en communication qui va accompagner les différentes entreprises, organismes et organisations dans l'organisation de leurs activités, de leurs événements. Alors, cette agence sera spécialisée en ce qui concerne la communication institutionnelle, en ce qui concerne l'événementiel. Et par là, on voit les forums, on voit les portes ouvertes, on voit les campagnes de changement de comportement. Aussi dans tout ce qui est lobbying, hein, tout ce qui est plaidoyer. Donc Michel se voit à la tête d'une agence indépendante et en communication. Merci.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
La question de ce jour vient de notre confrère Lubunga Marley du journal Le Paris. Elle concerne l'état de sécurité dans la ville de Goma.
Roger Marley Lukunga pour le journal Le Paris. Nous aimerions avoir la photographie locale actuelle de la ville de Goma. Cette ville compte-t-elle encore des éléments nuisibles qui perturberaient la paix ou est-elle dépouillée de tout élément nuisible?
Et à présent, la réponse du général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint chargé des opérations.
Écoutez, à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de la présence d'éléments de groupes armés dans la ville de Goma. Comme toute grande ville, Goma a un phénomène de criminalité que la police nationale congolaise, naturellement avec le soutien de la police des Nations Unies, s'emploie à éradiquer, mais on ne peut pas dire qu'il y a une présence d'un quelconque groupe armé dans la ville de Goma.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
À vos carnets pour les rendez-vous de la semaine, celle du 9 au 15 décembre. D'abord, le 9 décembre, donc ce lundi, ce sera la journée mondiale des Nations Unies contre la corruption. Un jour après, c'est-à-dire le mardi 10 décembre, ce sera la journée mondiale des droits de l'homme. Autre journée moins connue, c'est la journée internationale de la montagne. Elle aura lieu le 13 décembre. C'est la fin de cette émission. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir suivi. Mila Kimbuni à la présentation, Bob Landou du côté de la régie, Nicole Ngaka à la supervision, Honoré Missinger portage et Jean-Pierre Elali Coco à la coordination. Une émission à écouter à tout moment sur notre site www.radiokapi.net. Vous nous envoyez vos préoccupations, vos remarques ou la question des Nations Unies par SMS ou en appelant au 082 30 766 30 082 30 766 30. Vous pouvez aussi nous écrire à notre adresse mail magun@radiokapi.net ou laisser un commentaire sur notre site en dessous de l'émission. Une pensée particulière aux Sud-Africains de partout dans le monde. Excellente journée dominicale. À dimanche prochain.